Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma. Élection 2023 en RDC, deuxième semaine de campagne électorale, plus que 23 candidats sur les 26 alignés au départ pour la présidentielle, 3 se sont désistés. Nous faisons le point de la première semaine dans un instant. Médecins sans frontières rencontre des difficultés à apporter son appui aux nécessiteux dans le massif au Nord Kivu. L'accès est limité vers la zone en cause, l'escalade des violences armées dans ce territoire. La coordination projet pour MSF à Goma appelle tous les acteurs au respect du droit international humanitaire. Madame, Messieurs, bonjour. La campagne électorale est entrée dans sa deuxième semaine hier dimanche. Des 26 candidats alignés au départ pour la présidentielle, 3 se sont désistés et 23 sont encore dans la course. Quelques-uns seulement d'entre eux ont mis le pied sur l'accélérateur et ratissent large. Mais quels sont les messages que tous ces candidats véhiculent auprès de ceux qui suivent leur meeting? Notre confrère Jean Gandou a suivi les uns et les autres.
Au-delà des slogans que chacun a choisi pour la campagne, les différents candidats qui se sont déjà jetés à l'eau axent les messages sur plusieurs thèmes. Si le candidat numéro 20 est président sortant, partout il passe revient sur ses réalisations, portant notamment sur la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, l'entrepreneuriat de jeunes, les infrastructures ainsi que la paix dans la partie est du pays, sans oublier le programme de développement des 145 territoires. Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, met l'accent sur la paix, l'emploi des jeunes, mais s'attaque aussi à la politique du président sortant en relevant ce qu'il qualifie de faiblesse dans sa gouvernance et se présente comme celui qui va relever les défis du développement socio-économique du pays. Martin Fayoulou, candidat numéro 21, veut bâtir un État fort, prospère, libre et digne tout en assurant l'intégrité territoriale. Adolphe Mouzitou, numéro 24, en dehors de la maîtrise du cadre macroéconomique, mise sur un budget de 300 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Quant à Floribert Anzolouni, numéro 5, il veut enrichir son projet de société avec les réalités locales. Pour cela, il préconise l'organisation des tribunes d'expression populaire. Deli Sesanga, candidat numéro 4, place les curseurs de sa campagne sur la refondation de l'État par la réduction du train de vie des institutions. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Entre-temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, pourra suspendre sa campagne électorale le 30 novembre afin de prendre part à la COP28 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, annonce faite par Tina Salama, sa porte-parole, au cours d'un point de presse organisé hier par l'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. À cette occasion, Stéphanie Mbombo parle des engagements que prendra la RDC lors de ce sommet mondial sur le climat afin de favoriser son développement durable. On écoute Stéphanie Mbombo, l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. Elle est au micro de Grace Hamzati.
Comme vous savez, le président de la République a cette vision de la nouvelle économie du climat qui est de faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires. En marge de la COP28, nous aurons plusieurs compagnies du Nord qui vont signer un engagement pour acheter des crédits carbone en RDC qu'on appelle un MOU pour protéger nos tourbières et valoriser nos tourbières en achetant des crédits carbone qui sera d'une valeur élevée. Également, pour cette COP, la RDC va signer un contrat sur l'enveloppe pays au sein du forum des leaders sur les forêts et le climat qu'on appelle FCLP en cycle. Et là, nous allons signer une enveloppe pays qui sera consistante pour nous aider à valoriser la communauté autour de tourbières pour que la population tout autour ait une vie parallèle, alternative et n'ait pas entré dans le tourbière pour faire l'agriculture ou encore couper les arbres. Le président de la République a annoncé la création du fonds pour la nouvelle économie du climat. Ça sera un fonds qui sera fait avec la vision au niveau national, avec évidemment l'appui des partenaires, mais qui va contenir essentiellement un pourcentage sur les transactions de nos crédits carbone. Et ces fonds se serviront à des infrastructures durables et des monuments de climat qui va développer le pays de façon durable.
De son côté, Floribert Anzolouni, candidat à la présidentielle de 2023, a communié hier dimanche avec la population d'Ouvira au sud Kivu. C'était au cours d'une tribune populaire au centre commercial de Moulongwe. Le candidat numéro 5 a annoncé son projet de société axé sur 3 priorités, à savoir la sécurité et la paix, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la situation socio-économique à l'étape de Baraka et dans le territoire de Fizi, d'où il est rentré hier. Floribert Anzolouni s'est arrêté dans plusieurs localités. l'actualité afin de débattre à bâton rompu avec la population massée dans les rues à Baraka Centre et à Fizi Centre. Il s'est également incliné devant le monument du mémorial du massacre de Makobola. Et dans la suite de la diffusion des interviews des candidats à la présidentielle de décembre prochain, Radio Okapi reçoit ce matin Marie-Josée Ifoku. La candidate numéro 9 affirme avoir été motivée par le souci d'améliorer les conditions de vie des Congolais pour briguer la magistrature suprême. Marie-Josée Ifoku s'exprime au micro de Jocelyne Moussaoupondé et Alain Irungmushinji.
Je vais apporter un changement dans la vie de mes confrères et consœurs, ayant constaté que nous sommes un pays... non seulement immense, quasiment un continent, et un pays aussi riche, et voir toute une population vivre dans une telle misère, le contraste est trop énorme. Et c'est ainsi que je me suis dit tout simplement, il va falloir qu'il y ait quand même des gens plus engagés, plus responsables, plus déterminés, des gens qui aiment vraiment non seulement le Congo, puisque beaucoup de gens aiment le Congo, mais qui aiment surtout aussi le Congolais. C'est ainsi que, à travers ma foi, c'est des choses que je ne sais pas cacher, j'ai eu ma petite expérience personnelle à travers ma foi, je me suis dit, si ça a marché avec moi, pourquoi pas avec les Congolais? C'est ainsi que j'ai décidé d'entrer dans ce combat qui n'est pas facile, j'en suis consciente, mais c'est la détermination et l'amour qu'on peut avoir pour son peuple qui peut faire la différence. C'est comme ça que je me suis levé, puisque c'est l'espace où se prennent les décisions pour apporter un réel changement.
Notez que vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview à 8h30, 15h30 et 20h heure de Kinshasa, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Sud Kivu, la campagne électorale lancée dimanche 19 novembre se déroule plus ou moins bien dans la ville de Bukavu. Les candidats ayant plus de moyens et les plus rodés seraient les plus visibles sur terrain par rapport à ceux qui se lancent pour la première fois. C'est du moins ce que pensent les habitants de Bukavu qui se sont exprimés au micro de Radio Okapi. D'autres estiment que dans leur quartier, il y a tapage et désordre dû à cette campagne. Mais la plupart s'attendent au mieux-être des Congolais à la suite des prochaines élections. Leurs avis ont été recueillis par Rachel Kissé.
Ça va jusqu'à là, ça va. Pour le moment, il n'y a pas de pagaille dans la ville. Ça promet quelque chose. On attend pour voir ce qui va se passer par la suite, en fait.
Ici à Bukavu, nous voyons des mouvements de partis politiques souvent. Les candidats ont commencé à sensibiliser la population concernant le vote.
La campagne est bien, mais à Bukavu, il y a beaucoup de désordre. Beaucoup, beaucoup. La campagne ne se passe pas bien.
La période de la campagne électorale, je vais dire oui. Ça se passe un peu très bien parce que c'est une période qui a commencé et nous sommes en train d'observer. C'est comme si c'est là les grands poissons qui étaient soit au pouvoir qui ont commencé à faire des tapages. Les jeunes qui veulent aussi emboîter la politique, ils sont bloqués par le moyen. Je suis en train de voir comme s'il y a frustration déjà entre les candidats, ceux qui ont le moyen et ceux qui n'ont pas le moyen.
Je vois les campagnes, ça semble aller dans bon temps. Pas de difficultés, pas de problèmes. Il y avait des députés qui offrent beaucoup de l'argent pour convaincre d'autres populations. Mais il y avait d'autres qui n'ont pas d'argent, mais de parler de motivation. Mais la campagne s'est évoluée vraiment très bien.
Direction le Nord Kivu, je vous l'ai dit dans les titres, l'escalade des violences armées dans le territoire de Masisi accroît l'afflux des déplacés qui sont aujourd'hui éparpillés à travers tout le territoire. Cette situation rend difficile et limite l'accès à certains humanitaires pour apporter leur appui aux personnes nécessiteuses dans cette région. C'est ce que déplore l'organisation internationale MSF, Médecins sans frontières. Cette organisation qui apporte une intervention d'urgence dans cette zone parle de plus de 70 cas de blessés par balle depuis octobre dernier, qu'elle a évacué de Masisi et référé à Goma pour la poursuite de la prise en charge. MSF évoque cependant plusieurs défis, notamment sécuritaires et d'accessibilité, qui ne rendent pas faciles ces interventions. Écoutons à ce propos Graham Inglis, coordonnateur projet pour MSF à Goma. Il explique la situation au micro de Denise Lukesso.
On essaie pour l'instant d'apporter un soutien en urgence en termes des besoins. Nos principes sont indépendance, neutralité et impartialité. On traite, ça ne dépend pas ethnie, religion, affiliation politique, ni groupe armé. Donc dès que quelqu'un est blessé ou malade, il devient un patient et on les traite. On a des défis. Parfois, on essaie de négocier avec tous les acteurs dans la zone d'assurer qu'ils connaissent MSF, nos activités, qu'on arrive d'apporter un soutien à la population. n'importe qui. Le deuxième défi en termes d'accès à l'état de la route, surtout entre Sac et Massissi Centre, ça se dégrade énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de passage pour nos véhicules, pour les intrants, les médicaments pour aller à Massissi Centre. Chaque fois, il y a des affrontements qui empêchent notre accès. On sait qu'il y a des gens malades, des gens blessés qui n'ont pas accès aux soins. Donc, il y a la population qui souffre à cause de ça. Donc, on appelle tous les acteurs de respecter le droit international humanitaire, de protéger nos véhicules, nos staffs, toutes les structures médicales ainsi que la population civile.
Pendant ce temps, des affrontements ont été signalés encore hier dimanche dans la matinée vers Kiloli-Roué. Nous sommes toujours au nord Kivu sur l'axe Sake-Kichanga dans le territoire de Masisi. Des sources concordantes à Sake parlent de l'attaque des rebelles du M23 sur des positions des FARDC dans cette zone. Il paraît difficile de vérifier ce qui se passe sur le théâtre des opérations avec des sources officielles à Kiloli-Roué. La société civile de Sake signale un afflux des déplacés qui continue à arriver par dizaines de ménages. Faustin Kasso les l'aide en faveur de ces personnes qui, certaines, passent nuit à la belle étoile. Cependant, sur l'axe Kichanga-Mueso, toujours dans le Masisi, une accalmie relative est signalée depuis environ 3 jours, affirment des sources à Mueso. Notons enfin que le centre de Mueso reste sous occupation des rebelles, selon la même source. Rendons-nous au Kasaï oriental. Les pluies qui s'abattent ces derniers jours ne cessent de créer plusieurs dégâts dans la ville de Mbujimayi. Aucune commune n'est épargnée par ces dégâts. Certains bourgmestres affirment que des maisons non encore dénombrées se détruisent et des têtes de ravins continuent à se créer. Le point avec Esther Ndalafina.
Dans la commune de Dibindi, un enfant de moins de 15 ans a connu la mort le jeudi dernier après l'écroulement d'un mur d'une clôture. Un autre jeune a été emporté par les érosions dans la commune de Bipemba. À la commune de Lakanchi, le bourgmestre affirme qu'un bâtiment d'une école primaire s'est écroulé et la partie restante est menacée par la pluie.
Ça a dérangé une école à Tubondo, il y a une inondation dans les quartiers. Il y a au moins 4 quartiers, la pluie a dérangé.
Au niveau de la commune de Djoulou, le bourgmestre affirme que l'eau de ruissellement a détruit les travaux de modernisation de quelques routes.
Quand vous dépassez légèrement même au Chamba, il y a des dégâts. Et puis sur l'avenir que sont de même, les caniveaux que ça permet que ça conduit là-bas, c'est un petit caniveau qui n'a pas la facilité d'engorger toutes les eaux qui viennent de la canche. Et puis il y a autant de maisons qui sont dévorées. C'est terrible.
Signalons que les dégâts des pluies n'ont pas épargné aucune commune de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans la Tchopo, plus de 1000 ménages au chef-lieu du territoire de Banalia, situé à 128 km au nord de Kisangani, se retrouvent sans abri en cause de la sortie de la rivière Aruimi de son lit. Cette situation impacte négativement la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le récit de Jacques Moukonkole.
La crue de la rivière Aruimi est constatée depuis 10 jours, rapporte la société civile de cette entité. Plusieurs habitations se retrouvent sous les eaux et les personnes affectées chassées de leurs maisons. Blaise Maindo, son président, en redoute les conséquences, notamment sanitaires.
Quand il y a déjà des chiens dans l'eau, après l'inondation, il y aura aussi un autre problème qui va surgir, entre autres la crise alimentaire. Pendant que Banalia est très sensible aux épidémies, Banalia a été frappée dans les années antérieures ici par l'épidémie de méningite et aujourd'hui, Banalia est encore frappée par l'inondation. Que ce que nous craignons, ce sont les maladies d'origine hydrique.
Ces inondations ont affecté négativement la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et celle de la lutte contre la poliomyélite. L'administrateur du territoire de Banalia, Gilbert Akpamba, en appelle à l'assistance des organisations caritatives.
Même les distributeurs ont difficile à faire le marquage et les ménages qui devaient bénéficier de leurs moustiquaires ne se retrouvent plus dans les lieux où on devait les retrouver pour la distribution des moustiquaires.
Signalons que 9 autres villages sur les axes Banalia-Panga, Banalia-Kisangani et Banalia-Mara sont également victimes de ces inondations. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a affirmé hier soir que le calme est rétabli après une journée des heurts à Freetown, la capitale, heurts qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui. Plus tôt dans la journée d'hier, la Sierra Leone a décrété un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire après l'attaque avortée d'une armurerie et des affrontements armés dans la capitale. Merci d'avoir suivi ce journal.